Donc nous allons rentrer dans des choses encore plus pratiques que la dernière séance, puisque nous allons réfléchir sur l'avenir de l'engagement. Et donc, si la dernière fois on a réfléchi sur la connaissance l'un de l'autre et sur ce qu'on a déjà vécu dans dans nos acquis, dans le fait de, comme on dit, on se fait la cour, c'est-à-dire qu'on se connaît, on parle beaucoup, on se rencontre, on s'envoie 1000 SMS, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi est-ce que par rapport à son tempérament, à son caractère, par rapport à sa future belle famille, est-ce qu'on est tous les signes sont bons, enfin voilà, c'est aussi une réflexion sur soi-même, sur son tempérament justement, sur sa capacité de vivre à deux, et donc une maturité. C'est le pilier qu'on appelle de la liberté et d'une capacité de s'engager à l'unité et la fidélité dans le mariage. Maintenant, cet engagement envers une seule personne, pour connaître une personne, se donner à elle dans la fidélité et dans la maturité-liberté, elle est dans une perspective particulière à l'humanité, qui est l'ouverture à une vie complète, tant de vie de travail de l'un ou de l'autre, de l'un et de l'autre, et jusqu'à la vieillesse, et l'ouverture à la vie. Donc il y a la liberté, l'unité, c'est-à-dire qu'on se marie avec une seule personne, la fidélité, c'est-à-dire qu'on va être fidèle à une personne malgré ses défauts, grâce à ses qualités, et en essayant de se corriger l'un l'autre pour atteindre cette harmonie. Mais il y a aussi donc cette dimension particulière qui est l'indissolubilité du mariage. C'est une fidélité jusqu'à la mort, c'est une unité jusqu'à la mort. Et en fait, c'est un acte, ce n'est pas une limitation de notre liberté. Au contraire, le choix initial doit être totalement libre et conscient. Mais c'est aussi, donc, dans la complémentarité de l'homme et de la femme, une ouverture à la vie. Donc, c'est d'abord, une perspective du futur. Les questions qui vous sont posées ce soir sont très concrètes sur les années qui vont s'écouler, et donc sur des réalités comme le travail. Donc les questions qui vous sont proposées pour cette séance, pour réfléchir non seulement dans les prochains jours, mais dans les prochains mois, et puis toute votre vie, c'est: que représente mon travail? Quelle est la place de mon travail dans le couple que je fonde? Est-ce que c'est simplement un travail alimentaire? Est-ce que dans ma vie, je me suis retrouvé à faire un travail que je n'aime pas, mais qui est nécessaire pour la subsistance, ma subsistance et la subsistance de mon couple? Et comme de nos jours, les femmes travaillent aussi, à égalité. Donc c'est une question que tous les deux se posent. Est-ce que ce travail... Pardon, j'en relève. Donc je suis en voie de guérison, paraît-il. Est-ce que ce travail, justement, est un moyen, est au service de mon épanouissement, de mon bonheur? Ou alors est-ce que ce travail est trop lourd dans ma vie? Mais peut-être que c'était jusqu'à présent une vérité, mais est-ce que je ne vais pas justement petit à petit l'équilibrer, non pas remettre en cause mon travail, mais est-ce que je passe pas trop d'heures, de temps, de préoccupations, de soucis? Enfin, on enfonce des portes ouvertes, mais enfin, étant donné que parfois on ne se pose pas assez de questions dans notre vie, c'est une préparation au mariage, c'est toujours le temps de ces questions. Est-ce que mon travail, est aussi accepté par ma fiancée ou mon fiancé? Est-ce que justement ça va être pour nous bien placé, bien à sa place? Alors là, on rentrera. Vous voyez, ces diverses séances sont des séances assez générales. Ensuite, on se rencontrera, suivant vos situations, par rapport au prêtre qui va vous marier, tout ça. Enfin, il y aura des rencontres individuelles. Et surtout, si moi je signe le dossier administratif, je vais vous rencontrer individuellement, pour justement un peu avoir votre parole plus libre que quand l'autre est présent. Mais donc, dans d'autres sujets du futur, il y a les loisirs. Vous avez des personnes qui n'aiment pas sortir, mais même des choses culturelles toutes simples, ou même des choses pas forcément très... Vous voyez, qui n'aiment pas sortir du tout. Des casaniers, il faut le savoir. Avant de se marier, ça va durer plusieurs années. Hein, donc, si à un moment, vous dites « Oh, ben, c'est pas grave, ça... » Il reste à la maison, elle reste à la maison. Mais au bout d'un certain temps, si vous voulez avoir des loisirs un peu plus forts, plus culturels, vous voyez, c'est très varié. Et vous me direz, dans les siècles passés, on ne se posait pas ces questions. Eh bien, de nos jours, on se les pose pour envisager justement à la fois juste ce qu'on va faire ensemble maintenant, vous voyez, positivement. Ensuite, négativement, c'est qu'est-ce que je vais adapter pour si c'est trop individuel, mes loisirs sont trop particuliers ou trop marqués. L'argent. Alors, tout va bien, vous êtes plein de bonne volonté, mais sachez que l'argent est quelque chose qui provoque beaucoup d'émulation et beaucoup de jalousie dans les familles, et par rapport aux héritages, je ne sais pas si vous êtes dans une sainte indifférence avec la volonté vous-même de faire un régime de communauté des biens, de séparation des biens ou autre, vous voyez, de savoir... de nos jours, on est assez indifférent à ça, hein, mais si il y a des personnes qui ont un travail un peu à risque, parfois on se marie avec séparation de biens, vous voyez. C'est-à-dire que l'argent, chacun gagne son argent, et il y a des règles particulières pour les comptes communs, pour les acquis. Vous voyez, quand vous avez acheté un appartement, c'est au nom des deux ou au nom d'un seul, enfin des petites choses comme ça. Je vous le dis en passant parce que je suis moi-même juriste, mais ce n'est pas tout à fait négligeable. C'est en lien aussi avec le travail. Il y a parfois des personnes dans un couple, des personnes qui travaillent beaucoup, mais parce qu'ils veulent gagner beaucoup. Mais ce qui fait que la vie commune est abîmée. Tout ça, ce sont des évidences, mais vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit dans 10 ans. Et surtout, c'est une parole qui doit être optimiste, parce qu'en fait, quand ça, on vous invite à dédramatiser toutes ces petites querelles possibles sur le travail, sur l'argent, en vous posant vraiment la question et en abordant sincèrement, c'est une petite tension, c'est réalité, ça fait partie des choses importantes. Voilà. Parfois aussi, j'ai vu que des personnes qui étaient d'une famille aisée et d'autres d'une famille plus modeste, les tensions, les jalousies entre la belle famille et sa famille, soi-même, question d'éducation aussi, voilà. Tout cela, c'est pour le futur, une question à vous poser et qui vous demande la franchise. Voyez, tout se résout par ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir. Hein, de temps en temps, on parle de tout. Sans faire un catalogue. Et il y a des personnes qui sont tellement impliquées dans la préparation de mariage qu'ils en deviennent dingues. Vous avez des groupes de prière comme ça où ils font presque des listes. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de vrai dans ces gens qui sont un peu trop introspectifs, c'est que justement l'harmonie dans un couple, c'est aussi d'aborder de temps en temps très calmement les choses. Et de ne pas avoir trop le nez dans le guidon. Le nez dans le guidon et de se dire on en parlera plus tard, on en parlera plus tard. Il y a des moments où parfois même certains, je ne sais pas si vraiment c'est votre cas, prennent rendez-vous pour faire un repas à deux, tranquille, sans téléphone, sans internet, sans rien. Alors ils peuvent partir un week-end, ils peuvent... Mais il y a des moments où on se repose. Et c'est la raison pour laquelle justement on va aborder un autre pilier du mariage qui est l'ouverture à la vie. C'est que justement si vous avez la grâce d'avoir des enfants qui sont toujours une bénédiction, de temps en temps, ce sont des mondes qui viennent. Chaque enfant est un vrai monde. Chaque enfant a sa personnalité, son tempérament. Même s'ils reçoivent la même éducation, ce sont des mondes entiers. On dit qu'une âme, c'est un diocèse. On doit s'en occuper comme si c'était une communauté entière. Et c'est vrai. Et c'est très vrai. Et alors, ces enfants qui sont si dépendants au début, si faibles, vous serez appelés à des tâches totalement matérielles, qui vont vous fatiguer, bien sûr. Mais justement, et c'est peut-être un peu moderne, garder des moments à deux, d'où l'importance de garder des contacts paisibles et pacifiques et beaux avec des beaux-parents, avec des oncles et des tantes. Vous confiez vos enfants à un moment donné et vous partez une journée à deux. Vous voyez, c'est pour parler, pour être tous les deux. Mais donc reprenons ce guide qui nous est donné, qui concerne le corps. Est-ce que je connais mon corps? Est-ce que je l'aime? Pour le question, vous me direz. Eh bien, si. Parce que dans le mariage, il va falloir que vous soyez aussi dans une maturité par rapport à votre sexualité. Et donc de vous dire et de se dire l'un à l'autre la vérité. Si vous avez des problèmes, il faut le dire, ça c'est très très important, c'est l'honnêteté la plus simple. Hein. Alors, dans la foi chrétienne, la confession, c'est-à-dire de confier ses inquiétudes et ses scrupules, et en même temps reconnaître ses torts avec sincérité, auprès d'un serviteur de Dieu qui est tenu à un silence complet. La confession, le prêtre est une sorte de témoin qui est là et qui vous écoute, mais au nom de Dieu, et pour vous pousser à une humilité particulière qui est de parler devant un témoin. C'est presque une prière devant témoin, la confession. Sauf que cette prière est particulière, elle concerne nos défauts, nos fautes. Ce qui fait que c'est un peu humiliant. La garantie que nous avons, c'est que c'est un serviteur de Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Et en plus, il est tenu à un secret absolu qui résiste même au droit pénal de l'État. Et parfois, on peut nous le reprocher. Quelque chose qui est dit en confession, le seul pouvoir qu'a un prêtre vis-à-vis de crimes terribles, ça serait de lui refuser le pardon de Dieu s'il ne prend pas les moyens de réparer sa faute. Et on nous sent toujours la pédophilie. C'est facile, on fait ça et puis on se confesse et c'est terminé. Mais non. Lorsqu'un criminel se confesse, on lui dit, vous devez vous faire soigner, ou même, vous êtes un multirécidiviste, vous devez vous dénoncer à la police, car le seul moyen pour vous d'arrêter vos crimes, c'est d'être en prison. Et s'il refuse, eh bien on ne lui donne pas le pardon de Dieu. C'est pas automatique, l'absolution dans la confession. C'est un cas sur un million, le refus du pardon, mais ça arrive. Ou alors la personne n'a pas terminé son chemin de conversion. Je vous inviterai à la fin de cette préparation à réfléchir à la confession pour ceux qui sont baptisés. Mais si vous vivez en concubinage, vous ne pourrez vous confesser que ou le jour du mariage. En soi, voyez-vous, la confession demande la résolution de faire tout son possible pour vivre au mieux. Or, si vous n'avez pas eu la patience d'attendre avant de vivre ensemble, eh bien, si vous voulez, ça blesse la liberté, ça blesse l'engagement définitif. Voyez. Donc c'est pas une perfection de... Il manque une perfection de vertu et d'amour héroïque et romantique. Comment ?
Quand on vit en concubinage, on n'a pas le droit de se confesser. En fait.
Ben si, mais ça serait pour rentrer chez papa-maman ou faire logement séparé et se donner l'un à l'autre uniquement au jour du mariage.
D'accord.
Ou alors faire chambre séparée. Et là, vous pouvez vous confesser.
En fait, par rapport au concubinage, je comprends bien les enjeux de liberté, etc. Mais après, par rapport à la confession, ça veut dire que l'Église le considère quand même comme un péché.
Bien sûr, oui, oui. On n'ose plus le dire de nos jours. Enfin, dans une préparation de mariage, on peut le dire.
Mais du coup, concrètement...
Mais c'est pas le péché le plus grave.
Oui. Pourquoi c'est un péché?
Mais parce que quand on donne son corps, on le donne dans la promesse, pas dans...
Il faut se marier avant de s'engager.
Oui. On ne pose l'acte sexuel qui est un acte beau et oblatif d'amour mutuel que dans la promesse. Si on ne s'est rien promis et qu'on peut se séparer jusque la veille du mariage, imaginez... une révélation, une dispute épouvantable la veille, et ben, tout était prêt et pof, ils ne se marient pas. Et vous n'êtes pas engagé. Tant que vous ne vous êtes pas dit oui l'un à l'autre, vous n'êtes pas engagé. Or, il n'est pas normal de vivre comme mari et femme alors qu'on n'est pas engagé. Quelque chose qui... C'est la charrue avant les bœufs. Hein? Et pour ceux qui le vivent, vous allez me dire oui, mais ils se connaissent pas assez, tout ça. Le mariage à l'essai, c'est quand même un acquis, un avantage. Non, 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 ça. Il n'y a pas plus de mariage heureux avec concubinage, avec mariage à l'essai, que sans.
Aujourd'hui, vous avez beaucoup de mariages sans concubinage ou pas?
Il y en a.
Est-ce Enfin, je pense que la majorité quand même. Enfin,
ah ben là, 80-90% sont avec concubinage. Ben oui, mais c'est, si vous voulez, c'est une des causes, cette liberté, c'est une des influences qui provoque des divorces quand même à terme. On est tellement habitué à vivre 2-3 ans avec l'un, 2-3 ans avec l'autre, 2-3 ans avec le chien, ah ben là ça marche, on se marie, que finalement, même dans le mariage, on se dit, ah ben c'est comme l'autre, hein. Et au bout de 3-5 ans, on part. Tandis que la vie commune, c'est pas une prison, c'est un don. Vous voyez, par exemple, mais c'est forcément dans une préparation de mariage, dans une dimension catholique, qu'on vous dira des vérités anciennes et nouvelles à la fois. On ne va pas vous mentir, on n'aura pas peur de vous... Vous voyez, ensuite, en discussion, lorsqu'on se verra couple par couple, vous pouvez dire « Oh, mon père, quand même, peut-être que l'Église devrait évoluer. » Voilà, mais vous pouvez me poser même ces questions maintenant. Mais c'est quelque chose hein, de se donner sans se reprendre. Vous voyez, c'est très beau. D'ailleurs, au risque d'être trop un peu mystique, mais je crois que je l'ai déjà évoqué, chez les religieux, chez les prêtres catholiques latins, les prêtres orientaux, la plupart... Il y a peu de prêtres mariés en Orient. C'est permis. Un prêtre catholique ou orthodoxe, hein, mais c'est une dispute d'autorité. En Orient, un homme marié peut devenir prêtre. Il y a sa femme, ses enfants. Par contre, il ne peut pas devenir évêque. Parce qu'on estime que l'évêque est totalement donné. Et là, alors là, même les orientaux ont dit oui, en effet, il doit être donné à Dieu. Mais c'est une sorte de mariage. C'est-à-dire que on est marié. Alors vous me direz, oh, c'est un peu bizarre. On n'est pas marié avec Dieu, mais c'est un engagement, comment dire, de total. Et on est en quelque sorte marié avec toutes les âmes. On n'a pas de préférence. Mais la préférence est belle et légitime. Si vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, c'est que, pardon. C'est que vous avez des préférences. Voilà. Une belle préférence. Voilà. Alors, donc c'est la raison pour laquelle il y a une dimension tout à fait humaine dans le mariage qui est âme et corps. Il n'y a pas de corps sans âme, il n'y a pas d'âme sans corps. Donc, c'est la raison pour laquelle dans l'union libre et le mariage... Mais l'Église va vous dire, l'union libre, donc ce qu'on appelle concubinage plus... ou le pax, c'est le concubinage fiscalisé, hein, ça vous donne des avantages, mais... Voilà. Le mariage civil, alors là c'est historique, hein, en France, le mariage civil, c'est à cause d'une querelle entre la République un peu anticléricale, c'est-à-dire anti-hiérarchie chrétienne, et l'Église, catholique. Le mariage civil... n'existe pas dans des pays où on reconnaît le fait religieux. C'est-à-dire que vous vous mariez dans... Si vous êtes des croyants, vous vous mariez dans un cadre religieux et le ministre du culte envoie une attestation à l'état civil et vous êtes marié. Il y a les effets civils du mariage. Le mariage est un fait social, public et il est reconnu. En France, pour une histoire conflictuelle entre l'Église chrétienne et l'État français, et la République française, après la chute de la monarchie beaucoup plus chrétienne, on exige un consentement devant Monsieur le maire. D'ailleurs, lorsqu'ils ont fait ça, ils ont singé un peu la cérémonie religieuse. Et Napoléon... Quand il avait vu d'autres versions du mariage civil, il dit bon, quand même, on pourrait dire autre chose, un peu, enfin, c'est étoffé, à l'Église, c'est mieux. Bon. Donc, on lit les articles du Code civil. Vous voyez ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont mariés civilement? Oui. Donc vous avez vu, en respect de la dimension humaine naturelle du mariage civil, du mariage tout court, parce que quand on n'est pas croyant, le mariage civil vaut mariage naturel. Hein. On est vraiment, vraiment marié. Oui. Eh bien, le maire vous lit les articles du Code civil qui vous racontent la fidélité, le respect, la responsabilité de parents. C'est magnifique. Vous voyez, mais c'est quand même des textes qui sont quand même un peu judéo-chrétiens hein, dans leur esprit. Voilà.
Quand vous dites que quand on n'est pas croyant, le mariage civil vaut...
Mariage naturel.
Avec la dimension judéo-chrétienne que ça peut avoir.
Oui, le lien sacré naturel. Deux Français non baptisés, pas bouddhistes, pas hindous, pas musulmans, pas juifs, se marient à la mairie, ils sont mariés. Si deux musulmans ne considèrent le mariage civil comme rien et veulent absolument se marier de manière coutumière ou devant l'imam, tout ça, là on pourra voir à quel moment ils ont voulu donner leur consentement. Mais on présume, ne connaissant pas toutes les particularités de tel ou tel rite, l'Église catholique, elle, quand deux non-baptisés se présentent, si un des deux s'est déjà marié civilement avec un non-baptisé, il y a un problème. Comment ?
C'est pas possible.
Mais il y a un lien.
Enfin, on considère que c'est un mariage...
Il s'était déjà marié. Donc il va y avoir... Mais c'est quelque chose d'un peu compliqué, si vous voulez, je pourrais vous en parler. Mais... Disons qu'après, il faudrait qu'il fasse une démarche vers le baptême pour qu'un lien naturel soit tranché. Or, le bon Dieu nous dit qu'il n'aime pas la séparation, qu'il voudrait que nous nous pardonnions et qu'on reste ensemble. Et donc, permettre un deuxième mariage au profit d'un baptême d'un des deux, il faudrait que l'autre soit devenu extrêmement agressif et, voyez, et empêche l'autre de vivre. Alors, si un des deux non-baptisés demande le baptême, on pourrait lui permettre de se marier avec un chrétien pour sortir d'une vie extrêmement dure avec l'autre. Mais si l'autre est pacifique, et c'est celui qui demande le baptême en fait qui veut se séparer parce qu'il aime bien une autre personne, on permettra pas. Vous voyez.
C'est le prêtre qui apprécie.
C'est le prêtre et l'évêque.
Ah, c'est l'évêque.
Ah oui, vous savez, il y a un très très grand respect du mariage.
Même s'ils sont divorcés avant.
Ah oui, le divorce. Pour...
Même le divorce ah, ça, par contre. Mariage civil.
Ah oui, n'a aucun... dans la foi chrétienne, le divorce n'a aucune valeur. D'accord. La seule valeur qu'a le divorce, c'est ils se sont séparés de corps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a une force dans le divorce, dans le sens où il y a une mésentente très forte. Mais ils continuent à être mariés. Vous voyez, on est. Bon, c'est vrai que c'est vieillot et que c'est foutu et c'est la fin des temps. Mais non. Nous persistons dans cette volonté de pousser les gens à être heureux et à vieillir ensemble. Jamais on ne nous le retirera. Jamais. Ça vous... Et là, justement, il y a eu des discussions. Des prêtres, des évêques disent « Oh, peut-être qu'on pourrait admettre une deuxième union. » C'est faux. C'est complètement faux, hein. Ça marchera jamais. Hein. Je vous assure. Hein. Jamais l'Église catholique n'admettra le divorce.
Mais du coup, on peut nous en dire plus sur le pape François. J'ai entendu dire qu'il essayait d'assouplir les cas d'annulation de mariage. Mais...
Oui.
C'est les médias qui rapportent ça.
Voilà. Alors les médias font parler le pape François comme un enregistreur. Et... Donc le pape François, et je suis canoniste, donc qu'est-ce que c'est qu'un procès de nullité? C'est que au moment des consentements, l'homme ou la femme n'était pas libre, avait une très grave immaturité, avait une très grave maladie psychologique, était dans le mensonge, la dissimulation. Voilà, c'est ça. Alors le pape François, non, c'est un des cinq. Non, parce qu'il y en a qui ne mentent pas, mais qui sont incapables de se marier.
C'est un peu comme ce que prévoit la loi française.
Un peu, mais c'est très rare. La nullité de mariage civil est très très rare. Elle existe, hein. À part violence, crainte grave. Voilà. Eh bien, le pape a souhaité que cet examen soit plus rapide. Il y avait un appel obligatoire pour être bien sûr que les choses soient bien connues, bien prouvées. Voilà. Et on fait dire au pape François qu'il serait pour une deuxième union avec une possibilité de ne pas, comment dire, de vivre les sacrements alors qu'on est divorcé et remarié. Les sacrements, c'est les signes de, comment dire, d'une cohérence d'amour avec Dieu et avec son prochain. Or, si le mariage était vrai et qu'on s'est marié à la vie et à la mort, et si on s'est séparé, si on est avec une autre personne, on a un manque d'amour. Il ne s'agit pas de leur foutre des pierres sur la figure, mais il y a un manque d'amour. C'est pas. Alors on dit oui, mais c'était terrible, c'était épouvantable et tout. Mais à ce moment-là, héroïquement, on aime et on attend que l'autre vienne. Mais c'est de la foutaise, elle a 30 ans, elle ne peut pas attendre jusqu'à sa mort. Ah, attention, un divorce au bout de 2-3 ans seulement de vie commune, c'est pas normal. Il peut y avoir une cause de nullité. Par contre, au bout de 20 ans de mariage et 3 enfants, je ne peux plus la supporter, de toute façon mon mariage était nul, j'étais sûr le jour du mariage qu'elle était dingue et tout. Cher monsieur, 20 ans se sont passés et vous me prenez pour des canards sauvages, coin-coin, hein. Vous ne l'aimez plus, c'est tout. Seulement, la vraie vie, c'est d'aimer, hein. Et alors, oui, mais celui qui a abandonné au bout de 20 ans, à 45 ans, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va rester... son mariage était vrai, enfin, valide. On n'arrive pas à trouver une cause grave comme quoi le jour du mariage, les consentements ne se sont pas donnés. Eh bien oui, c'est une croix. Ouais. Mais on ne peut pas toujours... si notre couple préparateur était là, il ne serait pas content. Père Marc est toujours négatif. Mais oui, mais c'est. Comment dire, il faut aussi, dans une préparation au mariage, on ne peut pas toujours vous parler des bisounours. Hein, mais voilà. Donc, l'union libre et mariage. Les causes principales de la désaffection du mariage en faveur de l'union libre. Eh bien, c'est justement la peur de s'engager pour longtemps, les causes principales de divorce, hein, c'est la mésentente, l'incompatibilité d'humeur, les querelles qui ne sont pas purgées, les abcès qui ne sont pas crevés. Hein. Connaissons-nous les positions de l'Église et leur signification sur une divorce, donc on vient de le dire. Et pourquoi elle demande ça? Est-ce que c'est du moralisme? Est-ce que c'est une sagesse humaine pour aider chacun à choisir? Ou l'engagement de Christ dans le sacrement de mariage? Ça, je vous l'avais dit à notre troisième rencontre. Hein, Dieu, lui, se marie avec l'humanité et il ne se divorce pas. Alors que nous, on est plus ou moins aimables. Eh bien, vous savez, nous avons prié... Et là, dans mon ancienne paroisse, là, j'ai eu la peine d'apprendre qu'il y a des... des parents de deux enfants du primaire, une jeune personne, je vous en ai déjà parlé. Enfin. Mais on oublie de prier pour les bourreaux, pour les assassins, pour le salut de leur âme, pour qu'ils ne soient pas dans la haine pour toujours. Parce que dans la foi chrétienne, quand on meurt dans la haine froide et voulue, on ne veut pas vivre avec Dieu, et jamais. C'est un choix irrévocable. Vous trouverez des prêtres ou des évêques même qui vous diront « Mais non, on a un vent, non, peut-être que l'enfer n'existe pas, tout ça. » Mais si, si. Dans la Bible, il nous est dit que ceux qui ont la haine, à leur mort, ils seront jamais heureux. C'est un état d'âme de haine. Et alors, bon, alors on n'est pas dans la tête des gens, hein. Mais alors, si vous voulez, ceux qui tirent une balle par balle, tout ça, qui... Je ne sais pas dans quel état ils sont, s'ils sont fous, s'ils sont... Mais un chrétien ne doit jamais souhaiter que son ennemi soit dans le malheur absolu qu'est la damnation. C'est-à-dire être dans la haine de Dieu et de ses frères et sœurs pour toujours, après sa mort. Jamais on doit souhaiter la damnation de quelqu'un. C'est clair et net dans la foi chrétienne. Mais bon, c'est difficile. Bon, de pas souhaiter. Mais la peine, dire oui, mais Dieu il punit pas. Ben, l'homme punit. Hein, quelqu'un qui vous embête, qui vous fout le feu à votre voiture, qui casse votre porte, vous n'allez pas pleurer s'il est mis en prison 6 mois. Hein. Vous allez peut-être avoir peur lorsqu'il va sortir, mais vous. Considérer que les peines que les hommes infligent sont justes. L'Église demande à ce que la légitime défense de la société, la prison, les peines, soient proportionnées. Et que de nos jours, la peine de mort, qui pouvait être légitime dans telle ou telle condition très particulière, ne s'applique plus de nos jours. En temps de guerre, par exemple, vous avez un officier qui peut faire exécuter un de ses soldats qui a violé et tué une personne et qui n'a pas le temps de le trimballer en pleine opération. Il peut faire un petit tribunal, appeler un officier, ils font un tribunal militaire et hop, c'est la peine de mort. Mais ça, c'est des circonstances. C'est pour ça que les papes de nos jours disent que la peine de mort est trop sévère. Vous voyez, mais elle est possible en absolu, mais elle n'est pas. C'est redoutable, hein, la peine de mort, hein, verser le sang. Alors donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'était par rapport à comment? Par rapport à l'amour, le pardon? Non, c'était par rapport au pardon. Vous voyez, le Christ, on a dérivé à partir des attentats et des bourreaux, et à partir du pardon. Mais une des causes du divorce, c'est de ne pas pardonner. C'est de punir l'autre. Et le punir jusqu'au bout. Vous voyez. Et donc, prier pour ses ennemis... écarter la peine de mort, tout ça, d'où ça vient tout ça, mais écarter l'excessive sévérité dans la vie commune, c'est ça. Moi, je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire que je raconte toujours, un couple qui a eu 75 ans de mariage. Le jour de la fête, ils ont fêté leurs 75 ans. Il est mort à 103 ans, elle est morte à 97 ans. Ils n'avaient pas pu avoir d'enfants, ils en avaient adopté 4 dans les années 50. Bon, c'était plus facile. Et alors on demandait à Lucienne, elle s'appelait Lucienne, Lulu, mais pourquoi les gens divorcent comme ça? Et elle avait toute sa tête, hein. Et elle a dit, ils ne se pardonnent plus rien. Eh bien, ça s'est gravé dans ma mémoire, j'avais 12 ans. Hein. On ne se pardonne plus.